Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver en direct de Picardie pour une émission un petit peu spéciale pour moi. J'ai la chance de recevoir assez souvent des potes et ben voilà, un ami avec qui j'ai pu non pas jouer mais m'entraîner pendant une année au Racing. Et bien sûr, je vais faire cette émission avec Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui a eu la chance d'entraîner l'équipe de France et que tu connais bien, tu l'as déjà dit en préambule.
Oui Arnaud, la vie d'entraîneur, de manager n'est pas de tout repos. À vrai dire, il faut être un peu cintré ou complètement passionné ou peut-être les deux au sortir d'une carrière pour y retourner dans le bordel avec la casquette d'entraîneur. Pour avoir déjà pas mal échangé avec beaucoup d'entre eux, certains arrivent à 7h du matin pour organiser la journée de leur bambin. Il faut gérer les séances de travail, les égos, la stratégie, les blessés, les collaborateurs, fixer des objectifs à court, moyen et long terme, s'engager sur 1, 2 ou 3 ans, atteindre le but fixé à chaque mandat par le président, affronter les pressions médiatiques, la pression du résultat, remobiliser les troupes en cas de creux ou de défaite, et tout ça en parallèle d'une vie de famille qui demande parfois autant d'énergie. D'où l'importance d'être accompagné par un staff de confiance et de former une belle équipe avec sa femme ou son mari. Jean-Frédéric Dubois, ou Jeff Dubois pour les intimes, ou Jeff Duwood, ou Jeff Del Bosque pour les bilingues comme moi, a un parcours qui force le respect. Asseyez-vous bien et écoutez-moi ça. Formé à Peyrorade, joueur de Dax comme son papa, il passe successivement par Béziers, Colomiers, le Stade Toulousain avec qui il devient champion d'Europe en 2005 face au Stade Français. Pour terminer sa carrière au Racing avec un titre de champion de France de Pro D2 en 2009. Quelle belle année nous avions passé, mon cher Jeff, en 2007-2008. Bon, je n'avais pas fait un match de l'année, mais on avait une belle bande de types quand même. Le résultat n'avait pas été au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on s'était bien marré. Bref, il devient entraîneur de Massy et du Stade Français, avec qui il est champion de France en 2015 sous les ordres de Gonzalo Quesada. S'ensuit 2 années en équipe de France, puis Montauban avant d'œuvrer à Bayonne, où il officie avec son compère Yannick Bru. Jeff, pour moi, c'est un papa. C'est le bon mec par excellence, avec l'état d'esprit rugby qui va avec et une force tranquille. Et en termes de force, bien sûr, je ne vous parle pas, bien entendu, de force physique, vu qu'il n'a jamais vraiment pu blairer une barre de muscu, ni les séances de PMA comme Bibi ou Augustine Pichotte à l'époque. Bref, Jeff, c'est un mec à l'ancienne qui a bientôt 50 ans. Et oui, Jeff fait figure d'ancien dans le panel d'entraîneurs français. Ne nous attardons pas. Bienvenue, Jean-Frédéric Dubois, dans Poulain Raffut. Ravi de te recevoir. Salut, Jeff.
Merci beaucoup pour cette présentation. Salut, Raph. Salut, Arnaud. Merci beaucoup.
Salut, Jeff.
Très sympa.
Tout est vrai.
Ouais, pas tout, parce que j'ai physiquement, je courais quand même. Hein, d'accord, mais bon.
Ouais, parce que je dis juste que tu étais pas fan.
Si les joueurs ils regardent, si tu entraînes et que je leur dis d'aller courir un peu, bon, ça va être un peu dur. Mais non, mais c'est. La plupart des choses qu'il a dit, c'est relativement vrai.
Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Jeff. On va parler de ton actualité d'abord, puisque ouais. Bayonne a annoncé il y a maintenant quelques semaines, suite au départ de Yannick Bru, hein, qui avait été annoncé un peu précédemment, que tu ne serais pas conservé dans le staff de l'aviron bayonnais. Comment d'abord tu as accueilli cette nouvelle? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce qu'il y a eu de la déception?
Pour être tout à fait honnête, non, je ne m'y attendais pas, mais je... Depuis 2 ou 3 mois, pour en avoir discuté avec Yannick, je savais que très certainement ça allait changer, puisque Yannick avait décidé d'en rester là. Donc forcément, comme c'était lui qui m'avait fait venir, je me doutais qu'il n'y aurait pas de place pour moi à Bayonne. Bon, voilà, donc oui, un peu déçu parce que j'aurais aimé être un peu dans la continuité. Je revenais dans le Sud-Ouest et travailler avec Yannick, c'était aussi important pour moi parce que c'est quelqu'un que je connais. C'est avant tout mon ami, hein, mais, Mais en tout cas, il est quand même bien, bien reconnu, outre ses compétences rugbystiques, qui sont incontestables. C'est quand même un gars comme je les aime, hein, comme Raph disait en entrée. Hein, il est droit, il sait dire les choses. D'ailleurs, il dit toujours une phrase, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Voilà, donc, ou on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, plutôt, dans le bon sens. Et je sais que, bon, au moins, avec lui, de travailler avec lui, c'était bien parce qu'il te dit les choses et des fois un peu dur, mais au moins, on sait qu'il ne te mettra pas des coups de bâton dans le dos, quoi. Voilà, donc ça a été, ou peut-être que... On pourra continuer par la suite, mais bon, sûrement que nos chemins vont encore se recroiser. Et voilà, donc oui, forcément déçu, parce que j'aime être dans la continuité et de pouvoir travailler sur 2, 3, 4 ans pour faire progresser voilà, les joueurs et ainsi de suite, quoi. Et le club, le projet de club.
Est-ce que c'est compliqué quand on est entraîneur, justement, de pouvoir continuer à se projeter, à se lever tous les matins avec cette force et cette détermination qui est obligatoire hein, pour un manager, puisque c'est un élément moteur hein, dans un club. On sait que l'objectif de l'Aviron Bayonnais, c'est de remonter en top 14. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a eu un coup de moins bien? Est-ce que finalement, ça se fait assez naturellement? Est-ce qu'on arrive à rester focus sur les objectifs?
Mais honnêtement, non, ce n'est pas compliqué parce que, comme tu l'as dit, il y a un objectif de remonter en top 14. Donc on est tous concernés là-dessus. Il y a quand même une vingtaine de joueurs qui sont en fin de contrat aussi à l'Aviron Bayonnais, donc certains ont re-signé, d'autres ne savent pas trop, ils sont un peu dans le doute. Du côté du staff, c'est la même chose aussi. Mais en fait, je pense que tout le monde a envie de bien finir, donc je me dis que tout le monde est concentré sur l'objectif de fin de saison. Et au final, ben, ça se fait naturellement. Les entraînements s'enchaînent, ça travaille bien, ça bosse bien. On commence à bien jouer aussi, collectivement. Voilà, donc je trouve que... Ben, en fait, c'est pas que je suis confiant, c'est que j'ai confiance en ce groupe et je sais que tout le monde donnera tout jusqu'à la fin et après arrivera ce qui arrivera. Si on a la chance de monter, ben, c'est parce qu'on l'aura mérité et si ça ne se fait pas, ben c'est parce qu'on n'aura pas mérité, tout simplement.
Raph, tu parles souvent de l'accompagnement des joueurs psychologiquement, mentalement. On parle peu, finalement, des entraîneurs, des managers. Est-ce que c'est un volet qu'il faudrait peut-être explorer, justement, sur l'accompagnement des managers, dont on sait que la carrière est quand même toujours très précaire, très fragile?
Elle est précaire parce que du jour au lendemain, tu peux, comme un joueur en fait, qui est sur une blessure, peut avoir une contre-performance et donc être libéré 1 an ou 2 ans avant la fin de son contrat, ce qui est difficile. Enfin, moi, j'ai vu évoluer Jeff au fur et à mesure de son départ du Racing vers Massy, après le Stade français, après l'équipe de France, après Montauban, après le Bayern. En fait, c'est difficile parce que tu as toute la famille aussi à côté pour arriver à t'installer sur la durée, comme le dit Jeff. Putain, il faut avoir les reins solides quand même, parce que tu, ben, comme je disais, il faut soit être passionné, soit être complètement cintré, soit les deux, pour se dire qu'en fait, tu vas faire 2 ans ou 3 ans, et du jour au lendemain, tu vas partir avec toute ta famille et partir à l'autre bout de la France. Et voilà, tu l'as fait pendant 15, 20 ans. Alors, nous, on était aux prémices du rugby professionnel, mais ouais. Jeff a connu toute l'évolution du rugby pro. T'arrêtes et du jour au lendemain, ben, tu te dis, ben voilà, on va peut-être partir à tel endroit, à tel endroit. Oui, c'est difficile. Bien sûr qu'il faudrait un suivi aussi psychologique. C'est Pierre Mignoni qui nous disait l'année dernière, hein, il nous a dit, mais il faut être complètement cintré pour être entraîneur. Parce que tu te lèves à 5 heures. Enfin, c'est un monde à part. C'est un monde à part où tu marches sur des œufs. Je disais, les mecs commencent à 7 heures du matin, certains. Et puis, c'est des contre-performances parfois. Enfin, psychologiquement, il faut être armé. Et puis surtout, en termes de stabilité, bah, si tu veux une stabilité, il ne faut pas faire ce métier-là, je pense. Bien sûr, il faut les accompagner, ces mecs-là, bien entendu.
Tu partages, Jeff ?
Oui, je partage tout à fait. C'est sûr que quand tu t'engages dans ce métier, il faut être prêt à bouger. Et encore plus maintenant, parce qu'il y a énormément d'enjeux sportifs. Les présidents veulent que leur club gagne. Et à la fin, au final, il n'y en a qu'un qui gagne. Hein. Donc, forcément, tout le monde s'arme et puis finalement, il n'y en a que qui gagne l'affaire. Et en ce moment, c'est souvent Toulouse, malgré tout. Donc, tous les autres entraîneurs et tous les autres managers sont, sont sur la sellette. Quand tu ne gagnes pas un titre, forcément. Donc je partage ça parce que moi, après, ce que je recherche, parce que si on fait, comme dit Raph, si on fait un peu le bilan sur les dernières années en passant par l'équipe de France, je n'ai pas fini mon contrat en équipe de France. Montauban, ça a été un peu pareil. Bayonne, je ne vais faire qu'une année. Voilà, maintenant, je recherche un peu de stabilité ou du moins un projet sur 2, 3, 4 ans avec la confiance d'un club, de tout un club, d'un président pour faire progresser ce club et pour essayer de faire progresser justement les joueurs et d'atteindre des objectifs, d'être champion. Voilà, et c'est ça qu'on recherche en tant qu'entraîneur ou manager. Enfin, voilà, c'est un peu de stabilité, un peu de confiance dans cette stabilité qui nous permettrait de travailler au quotidien avec les joueurs. Alors, on le fait, je le fais sur une année avec Bayonne. J'essaye, moi, mon principal objectif, c'est de faire progresser les joueurs tout en ayant conscience qu'il faut gagner les matchs, que des fois, on les gagne en jouant, des fois, on les gagnera en jouant au pied, enfin, ainsi de suite. Voilà, on s'adapte aussi, l'argument principal, c'est quand même pour moi de faire progresser et que les joueurs, quand ils ont travaillé avec moi, ils se disent voilà, c'est bien, j'ai appris sur ça, j'ai appris sur autre chose. Voilà, c'est un de mes principaux objectifs.
Puisque tu en parles, Jeff, est-ce que tu sais déjà de quoi sera fait ton avenir ou est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des avancées sur ce dossier? Il ne faut pas que ça te fasse être enlevé quand même.
Non, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'envie d'entraîner, elle est toujours présente. Voilà, la passion de ce sport, elle est toujours là. Autant au début, peut-être qu'on en parlera, mais autant…
On va en parler.
Ouais, autant au début, je n'étais pas prédestiné à faire ça, mais maintenant, j'en suis conscient que j'aime ça. Et donc, tout ça pour vous dire que… par rapport à moi, à mes dernières expériences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, tout ça pour vous dire que j'aimerais retrouver un contrat de 2, 3 ou 4 ans qui me permettrait de ce que je viens de dire, de travailler sur ça.
Mais il y a aussi le stress, au-delà de la compétition, le stress aussi de… Parce qu'on le sait, hein, les rugbyman depuis 20 ans, oui, ça a bien gagné sa vie, mais derrière, tu es obligé de te projeter professionnellement parce que, alors oui, il y a le challenge sportif, mais il y a aussi faire bouffer sa famille, quoi. Et il y a aussi de pouvoir s'installer et de dire, on va se barrer à 300 km et puis là, je vais avoir un CDD de deux ans, ou d'un an parfois. C'est quand même difficile aussi à ce niveau-là, même si on l'a bien compris que toi, ton objectif, c'est de faire progresser, mais il y a aussi ce côté stressant en fait qu'il peut y avoir de se dire putain mais dans un an je touche plus le chômage, si tu traverses une année de chômage je touche plus le chômage et comment je fais quoi à un âge aussi je le dis à 50 ans ou 45-50 ans où t'as envie d'être légitimé, t'as envie de montrer, enfin t'as quand même un titre de champion de France, t'as quand même on va en parler, t'as quand même entraîné en équipe de France et tu l'as dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et plus on avance dans le temps, plus il va y avoir d'entraîneurs et moins il va y avoir de place. Et comme tu dis, hein, c'est qu'une équipe qui gagne chaque année. Donc, c'est difficile quand même psychologiquement de se projeter sur tous ces… c'est pour ça que je faisais un peu le panel de ce que vivait un entraîneur. C'est difficile de se projeter aussi même en famille après derrière. Quoi. C'est quand même un métier qui demande une grosse, grosse force de caractère. Quoi.
Ouais, c'est un métier particulier, c'est sûr. Hein, mais c'est… Franchement, c'est quand même une passion dont on vit. Donc, autant au départ, comme tu disais, on a eu la carrière de joueur, donc je m'étais projeté sur autre chose, sur l'immobilier, sur l'assurance, et puis finalement, je suis parti dans ça. Mais j'en suis ravi, quoi. J'en suis ravi parce que malgré tout ce qui s'est passé, la passion elle est toujours là. On parlait de l'équipe de France. L'équipe de France, je pense que je vais rentrer dans l'histoire du rugby en équipe de France. Je vais faire partie du staff qui n'est pas allé au bout de son mandat. Donc, on peut en rigoler, mais finalement, je pense que ça n'arrivera plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour les bonnes raisons. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais la passion, elle est toujours là parce que j'ai encore plein d'idées sur le jeu, sur l'évolution du jeu. J'essaie de me projeter... sur l'évolution du jeu futur et voilà et ça me plaît quoi. Mais c'est vrai que comme tu dis Raph, il y a beaucoup d'élus, Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui veulent le faire, et il y a très peu d'élus, quoi. Et de plus en plus de joueurs qui arrêtent, qui veulent devenir entraîneurs, parce que sûrement qu'ils aiment ça aussi, et donc ça deviendra de plus en plus difficile, voilà. Donc il faut se démarquer différemment. Moi, je sais que j'ai eu des succès, des échecs, et en tout cas, je sais que j'avais, peut-être qu'on en parlera aussi, mais des soucis, peut-être quand j'étais en équipe de France, ce n'était pas des soucis sportifs, mais des soucis peut-être extra-sportifs par rapport à la pression médiatique, par rapport à des choses comme ça, où je n'étais peut-être pas prêt là-dessus. Là, je sais que maintenant, j'ai compris, je fais une préparation mentale, une formation sur la préparation mentale en même temps, là. Voilà, pour moi et puis aussi pour les joueurs, pour apprendre aussi aux joueurs. Voilà, il y a plein de petits aspects comme ça qu'on peut mettre à profit aussi, tout en entraînant et en s'occupant d'un club, pour s'améliorer aussi, quoi.
En fait, à travers tes propos, Jeff, dis-moi si je me trompe, parce qu'on parle beaucoup justement de cette difficulté à être entraîneur, ouais. Mais ça reste quand même, et visiblement tu en as pleinement conscience, ça reste un vrai privilège quand même.
Tout à fait, c'est exactement ouais. Ça, c'est un privilège, c'est... Ouais, ça a été une passion. Moi, quand j'ai démarré le rugby, moi, je me suis régalé à jouer en minime, cadet, junior, avec tous mes potes et tous mes copains. J'ai fini en première à Peyrorade, et donc on en parlait. Moi, j'ai connu l'amateurisme, le passage au professionnalisme, Et bon, maintenant, c'est un rugby différent. On est dans un monde professionnel, donc c'est totalement différent de ce qu'on a connu. Mais en fait, mes plus belles années, presque, c'était mes années à Peyrorade, dans mon club formateur.
Tu as été champion de France, je crois, avec Peyrorade.
Oui, champion de France en 94, deuxième division. Et donc, ça a été… alors, je me peins le titre de champion d'Europe avec Toulouse, c'était formidable, hein, bien sûr. Hein, le titre champion de France aussi avec le Racing, mais… Mon plus beau souvenir, ça reste Peyrorade, quoi.
Bon, voilà, c'est vécu en famille, c'est vécu dans un truc. Ouais, moi, je dis toujours, c'est comme le titre Réchel qu'on a gagné en 99 avec les mecs qui sont derrière moi, là. C'est avant que l'enjeu dépasse le jeu, tu vois. Avant que l'enjeu de tout cet aspect professionnel, tu dis, la pression médiatique, tout ce qui peut te tomber sur le coin de la tronche. Tu t'y attendais pas quand tu étais dans ton petit bled à Peyrorade, comme moi, j'étais à Beauvais ou d'autres, tous ces mecs-là qui vivent dans leur petit club, tu t'y attends pas. Tu es champion du monde quand tu gagnes un match le week-end d'un point. Face à Vesoul, dans le Loir-et-Cher ou ailleurs. Et c'est vrai que, bon, après, ça prend de l'ampleur de par ce côté médiatique, mais rien n'enlève ce quart de finale de Philippe Honneau qu'on perd à d'un point contre Rouen sur un terrain pourri en pente. Je m'en souviens encore. Et mes deux idoles, ce n'était pas Dominici, avec qui j'ai eu la chance de jouer, c'était les deux jumeaux qui jouaient deuxième ligne à Beauvais et qui avaient 10 ans de plus que moi et que je regardais comme des darons. Et c'est ça qui impacte, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut arriver à faire perdurer aussi derrière.
Donc, c'est tout à fait ça. Donc, la passion est toujours présente, l'envie d'entraîner est toujours présente. Bon, après, si vous me dites que je suis une pipasse ou que je suis une quiche, ou vous avez une pétition de 100 joueurs là devant les yeux qui disent qu'il faut que j'arrête, bon, mais j'arrête. Mais c'est sûr que,
On parlait de Peyrorade et vous parliez d'aventure familiale. On va saluer quand même le papa de Jeff, qui est un des grands formateurs de l'école de rugby de Peyrorade, Gaston Dubois, si je ne dis pas de bêtises, hein, Jeff.
C'est exactement ça, oui. Ouais.
Juste pour conclure sur la thématique, Jeff, de ton avenir, est-ce que tu peux nous répondre très franchement, est-ce que oui ou non, ton avenir est lié à celui de Yannick Bru, ou est-ce que demain, tu peux éventuellement voler de tes propres ailes, entre guillemets?
Non, elle n'est pas liée à Yannick, non. L'envie de continuer avec lui, bien sûr, elle est présente. Si ça se présente, bien sûr, parce qu'on est en confiance, parce que je le connais et qu'on est en confiance et que j'aime ce genre de personnage. Après, je fais aussi de mon côté, c'est normal, parce que peut-être qu'il voudra faire autre chose lui aussi, je ne sais rien, mais voilà. Donc,
Il y a un autre talonneur qu'on connaît bien, j'ai eu la chance de jouer avec, qui est président de Dax, Benoît Auguste, qui est président de Dax. Dax, où tu as joué aussi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'un rapprochement, sachant que maintenant tu es dans ta région de cœur, où tu as grandi, est-ce qu'il n'y a pas un petit contact de prix autour d'une bière ou d'un magret cette dernière heure, je ne sais pas.
un magret plutôt. Non, non, je faisais non, non, non. Fait, je, ouais, si Benoît, je, on se voit, on a des conversations au téléphone, un peu moins souvent là parce qu'il est quand même pris et moi aussi, mais bon, on arrive quand même à se voir un peu. Non, mais bien sûr, après, avec plaisir. Ça reste un. J'y ai joué 4 ans, je me suis régalé, j'y joué avec Benoît. Benoît a fait ses débuts à Dax justement quand j'y étais. Donc, voilà, bien entendu. Mais pour le moment, bon, il y a.
Voilà, il y a d'autres dossiers.
À faire à suivre.
Bon, bah,
je m'excuse pour le soleil, peut-être que. Parce que bon,
non, il ne faut plus que tu bouges, là, t'es bien là.
D'accord, voilà, parce que dans les Landes, on a beaucoup de soleil et le ciel bleu. Donc peut-être que vous n'avez pas
Mais c'est bien, tu le fais partager avec tous ceux qui vont nous regarder. Jeff, on va passer sur une autre thématique parce que tu l'as évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure. J'aimerais que tu nous racontes un peu justement comment et pourquoi tu as choisi finalement d'embrasser cette carrière d'entraîneur. Est-ce qu'à l'issue de ta carrière de joueur, si je ne me trompe pas, tu étais destiné, enfin en tout cas, tu ne te projetais absolument pas sur une carrière d'entraîneur. Et puis si j'ai bien compris, tu as fini par mettre un orteil à Massy et puis petit à petit, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé parce que finalement, c'est assez drôle, quoi, comment tu es tombé dans le piège.
Ouais. Bon, je vais essayer de faire assez court, mais.
Oui, c'est mieux. Ne fais pas du poulain, s'il te plaît.
Allez. je vais essayer d'être assez court. Non, mais je finis ma carrière en 2009 au Racing. Donc j'habitais à Sceaux. J'ai eu mon troisième enfant donc, à cette époque-là. Et donc, pour des raisons familiales, il a fallu qu'on reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fallu qu'on reste sur Paris, donc sur Sceaux. Et donc, Massy m'avait appelé pour d'abord jouer. Donc, j'avais refusé parce que bon, j'avais 36. Voilà. Même si je me sentais en forme physiquement, les intersaisons devenaient compliquées en faisant les fêtes. Donc, ça devenait un peu compliqué. Et après, ils m'ont appelé pour entraîner. Et j'avais décidé de ne pas du tout entraîner. Je ne m'étais jamais posé la question. J'avais dit je partirais sur autre chose. J'avais préparé ma reconversion sur l'immobilier. Puis finalement, je suis parti sur autre chose parce que il y a eu la crise immobilière en 2009 aussi. Donc, ça m'a fait peur aussi un peu. Voilà. Et donc, petit à petit, bon, les choses que j'ai mises en place aussi ailleurs, les affaires que j'ai mises en place après ont pris du temps. Donc, je m'embêtais un peu aussi à la maison. Et puis, ils sont revenus à la charge en jouant le côté affectif, en me disant « mais viens donner un coup de main au centre de formation sur le joue-pied ». Ah, je dis « ouais, ok, pourquoi ?» Parce que j'aime bien ça, donner un coup de main sur les jeunes. Bon, donc, j'ai commencé par donner un coup de main sur le joue-pied. Après, j'ai commencé à prendre aussi un peu les trois quarts. Puis, l'entraîneur principal m'a dit « ce serait bien que tu viennes pour faire le joue-pied avec l'équipe 1, ok ?» Bon, ce serait pas mal que tu prennes aussi l'entraînement des trois quarts. Bon, ok, bon, mais donc c'est venu comme ça. Et puis, il y a eu un déclenchement, c'était un voyage. Donc, il joue à Tyros, un match à Tyros. Donc, on part en train. Donc, je fais le déplacement, puisqu'à cette époque-là, j'avais ma maison, je construisais ma maison à Tyros, donc à l'époque. Et donc, j'ai dit, je vais lier l'utile à l'agréable, puis je vais en profiter pour aller voir un peu comment avance les travaux. Et puis. Et partager un moment avec l'équipe de Massy. Et donc, le match se déroule pas bien, pas très bien à Tyros, hein, avec les corbeaux, ça. Donc, peut-être que les Massicois étaient un peu perturbés. Hein. Vous connaissez un peu à Tyros les corbeaux qui crient. Voilà. Et à la mi-temps, je pense qu'il y avait facilement 30 points, 30-0, un truc comme ça. Et Morgan Champagne, qui était à l'époque l'entraîneur principal, il était fou forcément parce que les joueurs il n'y avait pas de combat, enfin, pas présent presque, ils prenaient percussion, ils tendaient la main au tir au C pour se relever, enfin, j'exagère le truc, mais bon, c'était un peu ça quoi. Ils étaient en dessous de tout et Morgan s'en va, il part du vestiaire et il dit démerdez-vous, il claque à la porte énervé, démerdez-vous. Donc là, bon, il y avait Victor, du début du Zé, qui est géorgien, qui a été après moi, qui a entraîné avec moi par la suite, donc qui ne parlait pas. Et du coup, ben, j'ai pris la parole. Voilà, j'ai pris la parole. Je ne sais plus le discours que j'ai fait, mais bon, en fait, j'ai parlé un peu de l'amour du maillot, enfin de, voilà, un peu d'essayer de remobiliser un peu les gars. Et en disant, en finissant, mais si vous aimez votre club, vous gagnez la deuxième mi-temps. Je ne vais pas vous dire que vous avez gagné le match. Donc j'ai monté un peu le ton. Voilà, bon. Et au final, ils ont gagné la deuxième mi-temps. Je crois qu'ils ont gagné 7 à 6. Bon, au final, tu as 36 à 7 ou un truc comme ça à la fin du match. Mais ils ont gagné la deuxième mi-temps et ils sont revenus dans la vestiaire. Ils étaient tous contents. Ils étaient heureux. Mais j'ai dit, mais bon, vous savez que vous avez perdu le match quand même. Et en fait, derrière, on a bien entendu, parce que c'était quand même c'était amateur, hein, Massy, c'était un fédéral. Hein, donc derrière, on avait une heure et demie avant de reprendre le train à Dax. On est allé dans un bar que je connaissais bien, chez Loustalo, qui est décédé il y a un petit moment maintenant. Et donc on avait une heure et demie avant de prendre le TGV. Et donc là, on a fait une masse à 20 euros. Et d'ailleurs, toutes les 10 minutes, ils venaient me voir, mais il y a toujours de la masse. Et donc, on buvait, on mangeait en même temps. Mais à l'époque, c'était comme ça. Tu sais, allais dans un bar, tu faisais 20 euros chacun, on était 30, puis tu en avais pour la soirée. Quoi. Bon, là, on n'avait qu'une heure et demie, donc forcément, donc c'est tombé. On a pris le TGV déjà un peu éméché. Et puis, il y a eu tout le retour du TGV. Et puis après... Donc, comme ça s'est très bien passé aussi, la troisième mi-temps, les joueurs m'ont plébiscité par la suite. Et je sais qu'il y a eu un vote, parce qu'il me l'a raconté, il y a eu un vote au sein du conseil d'administration de Massy, où j'étais assez proche de Frédéric Grossi, qui était manager à l'époque, manager de l'équipe, et qui moi j'avais parlé, je lui avais dit que je repartais, que je descendais dans les Landes, j'allais faire mes projets. Franchement, Nathalie, ma femme, elle avait préparé les cartons. On n'avait pas d'appartement, on n'avait plus rien, il fallait qu'on parte. Et bizarrement, Frédéric aussi, là, au moment où il fallait s'appencher dans la balance, oui, non, on prenait Jeff Dubois ou pas, lui, il a voté oui. Et après, quand ils m'ont ressollicité, ce voyage, ce discours dans la mi-temps où les mecs, après, j'ai vu qu'il y avait eu du répondant, j'ai vu que ça avait réagi et bon, ça m'a plu. Et donc, j'ai dit à ma femme, bon, mais finalement, on reste. J'ai dit, on reste, on part pour un an. Comme tu disais, j'avais le chômage encore. Voilà, ils m'ont trouvé un appartement, donc j'ai pu rester pour la famille. C'était très bien parce qu'on est resté à Sceaux. Et c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti comme ça.
C'est assez incroyable quand même. Alors d'abord, première chose, effectivement, quand tu dis que tu fais pas long, finalement, tu fais quand même raf.
Oui,
ça, c'est la première chose.
Plus que toi.
Mais là où c'est incroyable, c'est que finalement, pour mettre le pied à l'étrier dans ce métier d'entraîneur, Jeff, on a le sentiment que c'était aussi un club comme ça qu'il te fallait. Un club familial avec un rapport humain. On sait que tu es très attaché, que tu es très proche de tes joueurs, que tu mets beaucoup d'affect dans ton style de management, dans ton style d'entraînement. Ouais. Est-ce que finalement, ce n'était pas la meilleure chose qui puisse t'arriver ?
Oui, exactement, parce que j'ai fait trois années à Massy. Ça a été plus qu'une aventure sportive, ça a été une aventure humaine, parce que j'ai gardé beaucoup d'amis. Donc Frédéric Grossi, des anciens joueurs aussi, tous les anciens joueurs que j'ai eu, les joueurs que j'ai eu moi, ils sont entraîneurs, Jean-Baptiste Di Martino, Bruno Guérinelli, Bonetti, Benoît Denoyel, et j'en oublie, tous ils sont au club maintenant, et donc ils perpétuent encore ce club, c'est quand même un sacré club formateur. Ils sont premiers de national, et ils sont en passe de monter en Pro D2, ils se font piller chaque année des joueurs, mais ils sont toujours là. Donc c'est vraiment un club atypique, un club qui ressemblait à Peyrehorade, parce que qui a les mêmes valeurs que Peyrehorade. Ou tu parlais de mon père tout à l'heure, mais qui a créé l'école de rugby de Peyrehorade, et c'est aussi un club formateur, un peu moins maintenant, mais ça dans le temps, ça a créé des joueurs. Et franchement, je me suis régalé. Voilà, donc. Je me rappelle, c'est l'actuel président François Guillonnet, qui est actuel président de Massy. C'est lui qui m'avait fait venir la première fois pour donner un coup de main au jeu au pied. C'est lui qui m'avait appelé, qui était avant dirigeant à Massy, et toi, qui m'avait relancé. Donc c'est un peu grâce à lui que je suis là. Mais Mais donc, j'ai vécu 3 années fantastiques et en plus avec des résultats. Puisque bon, la première année, on perd l'accession à la montée, mais la deuxième année, on monte en Pro D2 et c'était la première fois que le club de Massy montait en Pro D2. Quoi.
Justement, Jeff, je voudrais évoquer un aspect peut-être un peu plus sombre de tes débuts de carrière. Tu as eu effectivement Massy directement derrière le Stade Français vient de chercher pour être l'adjoint de Gonzalo Quesada. Très vite, un titre de champion de France. Derrière, très vite, on te propose de rejoindre le staff de l'équipe de France. Tout ça en quoi 3, 4 ans maximum. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le regret finalement que ça soit arrivé finalement un peu vite, que ta construction en tant que manager, ta construction en tant que gestionnaire de groupe, l'appréhension des médias, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que finalement tout ça n'est pas arrivé un peu vite?
Non, c'est vrai que j'ai progressé très vite, peut-être trop, je ne sais pas. L'ascension, elle a été fulgurante. Hein. J'étais à Massy. Franchement, si Gonzalo Quesada ne m'appelle pas, je reste à Massy. C'était un club qui me convenait. Derrière, ça se passe très bien, comme tu l'as dit. Et puis, il y a l'équipe de France. Et puis, après partir en équipe de France, il y a Yannick Bru, Guy Noves, Gérald Bastide qui s'occupait de la défense. Alors, on n'était que les quatre. Hein. Maintenant, ils ont d'autres moyens. Ils sont deux fois plus que nous, voire
un peu plus même.
Ouais, mais ils ont d'autres moyens, ce n'est pas la question, mais je me sentais quand même assez légitime par rapport à mon parcours, même si ça avait été court, puisque j'étais manager à Massy, après entraîneur aux côtés de Gonzalo Quesada.
Avec un titre de champion de France en 2015, on le rappelle.
Oui, voilà, et mon passé de joueur aussi, de haut niveau aussi, que j'avais derrière. Voilà, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas le côté sportif qui m'a fait peur, c'est le côté extra-sportif, plus la relation médiatique, la relation avec les médias, où il y avait quand même une certaine pression autour de l'équipe de France, et que parfois, je pense que il m'a manqué peut-être 2-3 ans pour gérer ça. Et c'est pour ça que je me suis inscrit dans une formation de préparation mentale aussi, qui permette, pas que pour moi, mais aussi pour les joueurs, pour travailler sur ça, parce que c'est hyper important quand même. On l'a appris un peu dans le diplôme d'entraîneur que j'ai passé, là, le DES, mais pas assez, on n'est pas resté assez, enfin, à mon avis, hein, voilà, par rapport à la pression qu'il y avait, quoi. Mais en tout cas, sur le plan rugbystique, je me sentais légitime et je me sentais très bien dans le projet de l'équipe de France.
Mais tu dis quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que Massy, c'est un club atypique, ça, on l'a dit, pour moi, c'est le meilleur centre de formation du rugby français de ces 20 dernières années. Tu as dit, ça fait piller, donc il faut arriver à partir, à revenir, descendre et remonter. C'est un peu l'histoire de Massy. Donc, cette première accession en Pro D2, ce titre aussi qui est complètement inattendu au Stade français, parce que si vous ne gagnez pas à 14 contre 15, quand Sergio chope son carton rouge au Racing, notamment, et derrière, vous gagnez, vous faites un match énorme contre Toulon. Enfin, c'est un titre un peu inespéré avec une équipe qui arrivait, je dirais, presque à maturité, comme celle de 2007, ouais. Avec Pierrot, avec Jérôme, avec l'arrivée des Jules, des flancards et tout ça. Et puis derrière, tu arrives en équipe de France aussi dans une situation qui paraît un peu difficile, atypique aussi. Donc, il faut en revenir quand même. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille. Alors déjà, on a parlé du management, du manager. C'est déjà compliqué. La vie d'un manager lambda, on va dire. Mais toi, tu n'es pas le manager lambda. C'est-à-dire que tu passes par Massy, tu n'étais pas prédestiné à ça. Tu te prends de passion pour ça. Massy, Racing, Massy, Stade Français, équipe de France, Montauban après derrière. Là, tu te retrouves catapulté à Bayonne. Ouais, il y a un moment, il faut peut-être appuyer sur pause et dire ouais, tu as toute légitimité. Et ce parcours, il est d'autant plus enrichissant parce que tu le bases sur l'humain en plus. Et ce n'est pas de la branlette philosophique que de dire ça te connaissant, quoi.
Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est un parcours atypique, quoi. Enfin, c'est monté très fort. Et puis là, c'est forcément redescendu un peu parce que 2 ans à Montauban, je ne vais pas au bout. Il y a le Covid aussi, un an Bayonne, alors que je pensais être un peu dans la continuité. Bon, mais c'est comme ça, les aléas font comme ça. C'est pour ça que je disais, comme je reviens au tout début, c'est que J'aimerais repartir sur un projet stable où on me fait confiance et qu'on me fasse confiance dans la continuité, quoi. Voilà, tout simplement.
Pourquoi juste pour conclure, vas-y Raph.
Non, juste parce que je pense qu'il y a un point qui est essentiel aujourd'hui, et c'est peut-être le premier qui parle des managers, et on en a reçu quelques-uns quand même, mais managers, entraîneurs qui parlent de coaching mental quand même. Je sais, Arnaud, que tu connais mon amour du coaching mental. J'avais fait cette formation en 2010. Moi, c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu tout ce que j'avais vécu, de trouver sa propre motivation. On pourra en parler des heures. Qu'est-ce qui t'a fait venir au coaching mental? Tu m'as dit, tu avais touché. Moi, c'est ce qui m'avait marqué un peu sur la. C'est Bibi Oradou qui m'avait dit, mais tu sais, le coaching mental, on fait une demi-journée de formation sur le coaching mental dans notre formation de manager et d'entraîneur. Mais. Qu'est-ce qui te fait, toi, venir justement au coaching mental et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te former là-dessus? Pour moi, c'est la plus-value. Enfin, quand on parle de coaching et si on parle de manager, le coaching, tu peux plus fonctionner comme notre génération avec les couilles et le cœur. Il faut y mettre de la tête, quoi. Comprendre un peu comment ça se passe aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a poussé à la faire, cette formation?
Ben, tout simplement par rapport à toutes les expériences que j'ai eues et ces dernières expériences aussi que tu as connues, toi, l'an dernier, j'étais consultant à Carcassonne 2 jours par semaine. Je n'ai pas parlé de Carcassonne, mais ça a été quand même aussi grâce à Christian Labitte aussi qui est venu me chercher. Ça m'a permis de qu'on me revoie aussi. Et derrière, j'enchaîne avec Bayonne. Voilà, donc Christian, il a été pour beaucoup aussi dans cette descente un peu aux enfers. C'est pas une descente aux enfers, mais et c'est les montagnes russes, quoi. Voilà.
Ouais.
Et donc tout ça, tu réfléchis à beaucoup de choses et. Et franchement, sur la génération d'aujourd'hui aussi, parce que c'est une génération qui ne connaît que le professionnalisme, je pense que une formation sur la préparation mentale, c'est indéniable. Parce que si tu veux, les outils, je les ai, je discute beaucoup avec les gars, tu discutes de motivation, tu fixes des objectifs, de concentration, de la gestion du stress. Mais tu en discutes comme ça, tu vois ou d'imagerie mentale aussi, tu vois, je parle d'imagerie mentale avec les buteurs, des choses comme ça, ou avec les lanceurs, tu vois, je voulais approfondir tout ça, quoi, voilà, parce que c'est des mots que j'utilise, mais j'aimerais être bien calé là-dessus pour donner de bons arguments pour les joueurs, pour qu'ils progressent encore plus, quoi.
Voilà. Alors justement, juste... Ouais. Juste avant de parler, justement, on aimerait aborder cette façon que tu as d'entraîner, mais juste pour conclure sur cet épisode de l'équipe de France, ça a dû être, j'imagine, difficile à vivre, l'éviction de Dinoves, votre licenciement à Yannick Bru et à toi. Est-ce qu'à un moment, tu as été tenté de tout arrêter, de tout envoyer valser, de quitter le monde du rugby? Comment tu as vécu cet épisode en quelques mots?
Tout envoyer valser, non. Non, parce que c'était, pour moi, c'était un gâchis. Voilà, je pense que, voilà, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais je pense que c'est dommage que Guinoves et Bernard Laporte ne se soient pas entendus, parce que c'était quand même deux grands entraîneurs et deux grands managers. Donc, peut-être que ça aurait pu faire des étincelles à la Coupe du Monde au Japon. Voilà. Le regret, moi, il est juste de ne pas avoir fait une Coupe du Monde. Bon, j'ai eu la chance d'être plébiscité et de pouvoir intégrer l'équipe de France, et ça n'arrivera pas à tout le monde. Hein. Il y aura de grands entraîneurs qui ne feront pas l'équipe de France. J'ai eu cette chance-là et dans cette chance, j'ai une malchance de ne pas aller au bout du truc, quoi. Parce que, comme disait Raph, l'équipe de France, c'est différent. On voit les joueurs de temps en temps, on va les voir en club. Mais c'est totalement différent qu'entraîneur de club et une préparation sur 4 mois avant une Coupe du Monde où tu es tout le temps avec eux, c'est là où je me sentais aussi le meilleur, quoi. Enfin, et donc je serais là de pas avoir vécu ça pour vivre vraiment dans un groupe et un contexte de Coupe du Monde aussi, parce que c'était quand même génial, voilà. Donc pour finir sur ça, non, je me suis pas dit bon c'est fini, j'arrête. Non.
Non, parce que c'était pas de ta responsabilité quand même. Quand tu fais le, Enfin, tu vois le tableau un petit peu, le truc était noirci même avant l'arrivée de Guinové. Ça faisait des années que ça partait en sucette. Et vous êtes arrivé à un moment, c'est comme Guillaume Guirado, on le dit souvent, hein, qui dit bah, on a bouffé la tartine de merde. Maintenant, c'est ceux d'après aussi qui en profitent, avec une super génération, avec des compétences. On ne leur enlève pas du tout. Mais vous êtes arrivé à un moment où ouais, tu ne vas pas te remettre en question sur un truc où tu n'es pas responsable, en fait, sur le, je dirais, dans le fond de toutes les problématiques que le rugby français rencontrait. Tout a explosé à ce moment-là. Vous êtes des victimes, justement, collatérales d'un système qui est un système, et puis de rapports, comme tu l'as dit, humains entre Noves et Laporte. Et puis derrière, il y avait aussi l'homme en forme, il y avait toute cette politique, enfin, de l'organisation du rugby qui partait un peu en couille, quand même. Donc là, on a remis l'église, comme on dit, au centre. Mais en attendant, ben ouais, il y en a qui en ont pâti. Il y a une génération, selon moi, qui en a pâti. Et puis, quelques entraîneurs qui sont passés, qui aussi ont pâti d'un problème qui était plus structurel, je pense. Pour conclure, hein, Arnaud. Hein.
Ouais. Non, mais on va passer sur la troisième thématique. Je crois qu'on on a fait beaucoup sur cette thématique. Moi, c'est sur la façon d'entraîner, Jeff, que j'aimerais qu'on aborde. J'ai eu la chance de te voir évoluer, notamment sur tes années au Stade français. Et c'est vrai qu'on a bien t'observer. Il y avait quand même beaucoup d'échanges avec les joueurs. Il y avait beaucoup de complicité, beaucoup d'affect. N'hésitez pas à partager quelques moments conviviaux avec eux. Est-ce que tu confirmes d'abord être un entraîneur proche de tes joueurs, mettre beaucoup d'affect, beaucoup de t'es quelqu'un de très empathique, hein, quand on te rend compte, t'es quelqu'un qui dialogue facilement avec les gens, Jeff. Est-ce que c'est encore possible avec la génération d'aujourd'hui d'être proche de ses joueurs, d'aller faire une troisième mi-temps avec ses joueurs? Est-ce qu'on peut encore chambrer un joueur, se faire chambrer? Est-ce que c'est encore possible ça aujourd'hui?
On vit, c'est une génération différente parce qu'elle est habituée au professionnalisme et elle a vécu ça, elle a vécu ça depuis de l'âge de 15 ans, 16 ans avec les centres de formation. J'ai toujours été un entraîneur à l'affect. Quand je dis, j'ai fonctionné à l'affect, à la confiance. À l'honnêteté, à la responsabilité, à beaucoup parler, effectivement. Là, en étant entraîneur, je suis moins sur les troisième mi-temps. Quand même. Je partage des moments conviviaux avec eux, mais je sais partir au bon moment, laisser les joueurs entre eux, c'est leur groupe, mais boire une ou deux bières avec eux, oui, parce que ça permet de discuter, de parler d'autre chose aussi. Et quand je dis que j'aime communiquer, c'est, moi, j'aime expliquer les choses. Tout simplement, parce que pour avoir été joueur, des fois, il faut expliquer les choses, que ce soit en préparation physique, sur le jeu, sur ton projet de jeu, sur les choses, parce que c'est important que les joueurs comprennent ce que tu veux mettre en place. S'ils ne comprennent pas, si on n'en discute pas, forcément après, derrière, ça va pas bien, quoi. Donc voilà, et tout comme la préparation physique, moi, je sais qu'on me faisait courir, et puis finalement, après, on te dit il faut taper dans le ballon. Donc voilà, il faut une corrélation entre tout, quoi. Si tu expliques les choses, si tu dis on va faire ça physiquement parce qu'on veut jouer comme ça, et voilà. Donc, si tu travailles, si tu veux faire que des groupes pénétrants et du jeu au pied, mais peu importe, tu travailles physiquement par rapport à ça aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dans cette communication-là. Et par rapport à la génération d'aujourd'hui, pour en revenir à ta question, elle fonctionne de la même manière. Ils sont de plus en plus aguerris au niveau, physiquement, tactiquement, techniquement, stratégiquement. Enfin, mais il y a quand même un cap à passer quand tu passes du centre de formation. Et je trouve que... J'en profite pour dire qu'il y a énormément de bons centres de formation en France. On a parlé de Massy, mais il y en a d'autres. Je vois Bayonne aussi. Il y a beaucoup de jeunes Bayonnais qui jouent dans l'équipe 1. Et ailleurs aussi, il y en a énormément. C'est pour ça qu'on a une génération différente aussi maintenant, des générations qui arrivent. Et il y a d'autres générations derrière qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez regardé les moins de 20 ans. Mathis Perchaud, qui est de Bayonne, qui joue régulièrement en Pro D2 avec nous, qui a été au-dessus du match. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et c'est tant mieux. Mais je pense qu'on peut fonctionner de la même façon parce qu'ils ont quand même besoin d'apprendre. Il y a quand même aussi un gap entre le tu sors du centre de formation des espoirs et passer dans l'équipe 1. Et ils ont besoin encore qu'on parle avec eux et qu'on travaille techniquement, tactiquement, stratégiquement, physiquement, encore pour améliorer leur performance.
Pour toi, un manager doit être beaucoup dans l'échange, donc on est d'accord.
Mais ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Enfin, on se dit toujours, oui, on a la génération qu'on mérite. Puis la génération, elle est. Alors, on ne peut pas comparer avec ce qu'on a vécu il y a 20 ans, il faut arrêter d'être dans la nostalgie, mais cette génération-là, comme le dit Jeff, elle est acquise à la cause du rugby professionnel, elle est baignée dedans depuis tout petit. Les mecs ont envie de sens, et le sens, c'est aussi par le partage. Pas d'aller se pinarder jusqu'à 10h du mat avec les entraîneurs, loin de là, mais le lien, tu es obligé de le créer. Il y a beaucoup de respect aussi, et le respect, il y a encore de génération en génération. Bien sûr qu'on ne demande plus aux gamins d'aller enlever les plots, d'aller ramasser les plots, parce que c'est le... quoique ça doit encore un peu exister. On n'est plus dans le... Tu vois, il y a eu les trucs de bizutage et tout ça. On n'en est plus là. Les gamins, ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont... Enfin, puis c'est le rugby est complètement différent. Mais la sève du rapport entre l'entraîneur et l'entraîné, elle est toujours la même et elle doit rester. Quoi. C'est hyper important. C'est la transmission, que ce soit en amateur ou en pro, c'est cette transmission qui est selon moi, essentielle. Quoi.
Ouais, ouais.
On va,
à mon avis, il y a
raison. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que c'est important. Après, il y a différentes façons de manager. Moi, je ne remets pas en cause les managements durs, les managements directifs. Tout ça. Il faut avoir un peu de tout. Un excellent manager, il a un peu de tout ça. Il sait être directif, il sait être associatif. Voilà. Mais je pense que quand on me dit les choses, c'est quand même, ça fait progresser les joueurs. Et j'en reviens à ce que je disais au début, outre les enjeux sportifs, les enjeux où il faut gagner, et je suis avant tout un compétiteur, moi, je veux faire progresser les joueurs. Et la jeunesse qui monte, ils ont envie de progresser encore plus et même de progresser plus vite. Donc, c'est intéressant aussi de travailler avec eux.
Allez, on va bientôt conclure. Messieurs, une dernière question, Jeff. On fait un petit flashback. On imagine, on est quelques années en arrière. Tu viens d'arrêter ta carrière de joueur. Massy t'appelle pour aller entraîner le jeu au pied des espoirs. Est-ce que tu re-signes pour replonger dans cette aventure ou est-ce que tu pars sur totalement autre chose?
Avec grand plaisir. Ouais, je re-signe avec grand plaisir. J'ai aucun regret. Et d'ailleurs, je remercie pour l'ensemble de ma carrière d'entraîneur. Je remercie Massy, le club de Massy, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait grandir. Et voilà. Donc, je suis ravi.
Le mot de la fin va plaire à Raphaël.
Et ta femme qu'on entend derrière, en fait, que tu peux remercier aussi quand même, qui t'a suivi.
Elle s'en va à rendez-vous, elle me dit. Je lui dis bonjour. Non, là, quand même.
si, et on la salue. Hein, ouais. Non, salut.
Non, mais ça va, Jeff, à une épouse qui aime le rugby, heureusement.
Ouais, elle te dit, Raph et Arnaud, elle vous dit qu'il faut se déplacer pour lui dire bonjour.
on viendra.
Le problème, c'est qu'à Cap Breton, j'ai quand même pas mal de mauvais souvenirs parce que j'ai fait la moitié de ma carrière en rééducation. Donc, j'aimerais bien y venir. Je viendrai plus pour me pinarder. C'est avec grand, grand plaisir. Non, mais le mot de la fin, écoute. Je viendrai, j'entends.
D'accord.
Ravi, Jeff, de t'avoir eu, parce que je te dis…
Ouais, ravi aussi de t'avoir.
Une année, on avait passé au Racing, puis te voir évoluer. Enfin, tu vois, moi, connaissant un petit peu le coaching mental et la psychologie dans le sport, de te voir évoluer à travers tous ces clubs et tout ce que tu as pu vivre, j'ai eu pas mal d'empathie pour toi et aussi pour ta femme de te suivre aussi partout à travers la France. Donc, merci d'avoir un
regard. Et c'est pas fini.
C'est que le début. En tout cas, on te le souhaite de retrouver le plus vite possible après Bayonne un club. Et puis, ravi de revoir ta tête de Playmobil. Les gens en podcast ne le voient pas, mais il y a toujours la même coupe. Moi, tu vois, j'ai plus de cheveux.
Il y aura les vidéos sur Rugbyrama quand même.
Ouais. Non, c'était top. Merci beaucoup, Jeff.
Bon, ouais, messieurs, merci beaucoup. Oui, Jeff, pardon.
Non, je disais merci à vous. C'est très sympa. Et j'invite tout le monde à aller voir sur un podcast l'émission. Voilà. Donc,
ce sera à retrouver dès cet après-midi, hein, évidemment, voilà. sur toutes les plateformes Eurosport et sur Rugbyrama en vidéo. Messieurs, merci beaucoup. Poulain Rafut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec un autre invité. À bientôt.
Ciao.
Au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.